Chapitre 4. Un frère complaisant. J'ai dû perdre connaissance un moment, car lorsque je rouvris les yeux, je vis la figure d'un homme penché sur moi. « Ça va ?»«
Oui, » balbutiai-je.
« Vous n'avez rien de cassé ?»
Encore sous le choc, j'avais mal partout et je ne me rendais pas bien compte. Je remuais le cou, puis les bras, les mains, enfin les jambes, les pieds. Tout avait l'air de répondre et de fonctionner correctement.
« Je vais vous aider à vous relever, » me dit alors l'homme. C'est à ce moment-là que je me rendis compte que j'étais empêtré dans un sapin, dans trois sapins exactement. Ma trajectoire m'avait fait frôler quatre gros troncs de vieux sapins pour atterrir dans les bras de trois jeunes qui avaient amorti ma chute en me recevant dans leurs branches flexibles. J'avais vraiment eu une chance extraordinaire. Peut-être des anges avaient-ils guidé ma chute pour attraper la bêtise des sœurs. L'homme me tira le plus délicatement qu'il put pour m'extirper de cet amas de branchages touffus. Une fois remise debout, je réussis, en m'appuyant sur lui, à faire quelques pas. J'allais doucement car ma jambe droite me faisait particulièrement mal. La pente était raide et il me fallait remonter jusqu'à la route.
« Ma mobilette !» demandai-je tout à coup, en me rappelant comment je m'étais mise dans une telle situation.
« Votre mobilette a eu moins de chance que vous. Quand vous avez été éjectée, elle a filé dans la pente. Rassurez-vous, nous la retrouverons, mais dans quel état, je ne saurais vous le dire. Franchement, j'aime mieux que ce soit la mobilette qui soit morte et vous en bon état que l'inverse. » Mes idées s'éclaircissaient lentement et je me remémorais les circonstances de l'accident.
« Le tracteur, c'était vous ?»«
Eh oui, c'était moi.
Mais qui est-ce qui descendait comme une folle ?»«
Vous avez bu, vous sentez la vinasse. »
Les sœurs m'ont donné du vin chaud qui avait soi-disant perdu son alcool en chauffant.
L'homme éclata d'un bon rire bien gras.
« Ah, c'est les sœurs, elles vous ont fait ça ?» « Incroyable! Elles sont impayables! Elles ne doutent de rien! Elles font n'importe quoi sans réfléchir, convaincues que le bon Dieu, là-haut, arrangera le coup. »
Il rit encore.
« C'est sûr que vous sentez la vinasse, mais jamais j'aurais cru que c'était à cause des bonnes sœurs. Bon, vous allez essayer de grimper sur le tracteur. Je vais vous ramener chez moi, ma femme verra ce qu'elle peut faire pour vous soigner. La route fait un virage et repasse en dessous. » On tâchera de récupérer ce qui reste de votre mobilette. » C'est ainsi que j'arrivai dans la cour d'une ferme, juchée sur un tracteur, me cramponnant comme je le pouvais pour résister aux secousses, malgré mes douleurs, tandis que mon pauvre cheval mécanique, récupéré en passant, agonisait dans la benne derrière, la selle arrachée, la fourche pliée, la roue avant complètement tordue. L'homme me conduisit à sa femme.
« Tu sais qui lui a fait ça ?» lui demanda-t-il.
C'est toi avec ton tracteur ?
Non, ce sont les bonnes sœurs.
Elle s'est fait renverser par une sœur ? C'est vrai qu'elles conduisent n'importe comment. Elles auraient pu la soigner quand même.
Mais non, elle n'a pas été renversée par une sœur.
Qu'est-ce que tu racontes ? Elle ne s'est quand même pas fait tabasser par les sœurs ?
Évidemment non, elle s'est fait saouler par les bonnes sœurs.
Elles lui ont payé l'apéro ?
Presque, elles l'ont réchauffé au vin chaud. La petite est repartie sur sa mobilette, complètement cuite.
Et toi, dans tout ça, tu n'as rien fait ? Tu as descendu une demi-bouteille de blanc avant de partir. Je t'ai vu.
Peut-être, mais ça n'a rien à voir. Je sortais du chemin et je prenais la route quand mademoiselle est arrivée comme une fusée. En m'engageant, je prenais presque toute la largeur de la route. Le passage est serré, je ne pouvais pas faire autrement. Quand je l'ai vu arriver, je me suis arrêté net. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je n'avais plus le temps de faire marche arrière. Pour m'éviter, elle a piqué dans le ravin. Elle a eu une chance dingue, elle aurait pu y passer. Je crois que le choc m'avait complètement dégrisé. La fermière me donna une aspirine pour calmer la douleur, me débarbouilla le visage et, comme je n'avais pas de blessure apparente, limita là ses soins. Je me demandais comment j'allais pouvoir rentrer à la maison quand le bonhomme m'annonça. « Je crois que le mieux, c'est que je te ramène chez toi. Je finirai mon bois une autre fois. Veux-tu téléphoner ?»
Si vous avez la gentillesse de me ramener jusque chez moi, ce ne sera pas nécessaire. Ma mère est absente, mais inutile d'affoler mon père et mes frères et sœurs. » Aidé de sa femme, mon sauveur chargea l'épave de la mobilette à l'arrière d'une camionnette, me fit monter à côté de lui et me ramena à la maison. Mon arrivée en héroïne blessée causa une émotion considérable. Agnès et Rémy comprirent fort bien qu'ils avaient failli me perdre et me traitèrent en miraculé. Papa remercia mon sauveur en lui faisant cadeau de 2 bouteilles de gnôl qu'il avait lui-même gagnées et qu'il n'avait aucune intention de boire, cadeau qui parut faire un immense plaisir. Thibault fut fort triste pour sa mobilette. Il ne me fit aucun reproche, mais je devinais fort bien sa pensée. Il est certaine chose qu'il ne faut jamais prêter à une fille. Quant à maman, quand elle rentra et qu'elle apprit la nouvelle de la bouche des jumeaux parlant en même temps, elle me serra très fort sur son cœur. Le lendemain, à peu près remise, bien que courbaturée un peu partout, je profitai du repos dominical pour opérer une fouille minutieuse dans les affaires laissées par Antoine. Je descendis récupérer le tout à la cave et je remontai m'installer dans une petite pièce inutilisée, juste au-dessous de ma chambre. J'eus quelques scrupules à fouiller ainsi les affaires d'Antoine, mais je les surmontai en pensant que je faisais cela pour lui, pour l'aider. Il n'y avait pas grand-chose, tout juste quelques vêtements, une lampe de poche, 2 gamelles, 2 bougies. La seule chose intéressante, je la trouvai par hasard glissée dans une doublure de son sac. La couture avait lâché et en fouillant méthodiquement, je passai ma main dans l'ouverture. Je sentis un papier au bout de mes doigts. Je parvins à le récupérer sans trop le froisser. Il s'agissait d'une photo, une photo de famille. Une femme blonde d'une 40aine d'années et 2 adolescents, un garçon et une fille. Il devait avoir 15 ou 16 ans, mais on ne pouvait dire de l'un ou de l'autre quel était le plus âgé. Le plus curieux est qu'au dos de cette photo était scotché une clé pour serrure de sûreté, une clé avec de petits creux de chaque côté, une clé de porte d'entrée de maison ou d'appartement. Naturellement, il me parut évident que la photo représentait la famille d'Antoine et que la clé permettait d'ouvrir sa maison. Je décidai d'en parler à mon père. Ce n'est pas la peine d'avoir un spécialiste professionnel sous la main si on ne sollicite pas son avis sur des questions qui correspondent à ses compétences. Il fut d'accord avec moi pour la photo. Il y avait toutes les chances qu'elle représente sa famille. La clé lui parut plus énigmatique. Elle pouvait aussi bien être celle de son bureau, pour un patron, son bureau c'est une part de lui-même, ou celle d'un refuge, d'un logement prêté par un ami dont il gardait précieusement la clé. Ce pouvait être aussi une prise de guerre saisie à un ennemi, un élément d'une future vengeance. Bon, je restais tout de même sur mon idée de départ, qui me paraissait la plus simple, la plus évidente et la plus exploitable. La clé devait être celle de sa maison, qu'il conservait avec la photo de sa famille, comme un dernier lien avec sa vie passée, comme une ultime possibilité de retour en arrière. Je fis quelques recherches sur Internet pour voir si le nom d'Antoine Monnier pourrait me mener à une adresse. Mais non, l'annuaire sur Internet affichait une 20aine de Monnier dans le Var, dont une 30aine sur Hyères, mais aucun ne se prénommait Antoine. Je relevai tout de même la liste des Monniers du département avec leurs adresses respectives. J'allais ensuite chercher sur le site de la Chambre de commerce si je pouvais retrouver une entreprise ayant pour dirigeant un Antoine Monnier. Mais je ne trouvais rien non plus. Je ne voyais plus qu'une solution pour continuer à avancer, aller enquêter sur place. Mais comment faire? Je n'étais pas majeure et, étant encore lycéenne, je n'avais ni source de revenus, ni compte en banque garni. Je dépendais totalement de mes parents. Et je savais que mes parents ne roulaient pas sur l'or, surtout en ce moment. De plus, je n'étais pas certaine qu'ils voient d'un bon œil leur grande fille chérie partir une semaine à plusieurs centaines de kilomètres pour mener seule une enquête qui pouvait se révéler dangereuse. Je fis tout de même le compte de mes petites économies personnelles et je calculai que j'avais tout juste de quoi me payer l'aller-retour en train. J'imaginais alors qu'en partant en stop et en campant sous tente dans le camping le moins cher de la côte, je pouvais peut-être m'en sortir. Les vacances de Pâques approchaient, il ne s'agissait plus que de convaincre les parents. Je me doutais bien que cela demanderait de délicates négociations, mais ce fut pire que cela, j'obtins un non catégorique. Pour eux, j'avais toutes les chances de me faire violer au moins 10 fois dans une pareille expédition. Déjà que ma petite virée chez les sœurs leur avait fait rétrospectivement une peur bleue, ils ne tenaient pas à devenir cardiaques pour le plaisir de me laisser retrouver un vagabond qui s'était égaré dans la nature. L'autorisation parentale était donc en très mauvaise voie. D'autre part, j'aimais trop mes parents et j'appréciais trop tout ce qu'ils faisaient pour moi pour partir sans leur autorisation. Pendant une semaine, je tournais et retournais le problème dans ma tête sans trouver l'ébauche d'une solution. Bien sûr, j'en avais parlé à mes copines, Amélie et Ursula, mais aucune idée exploitable ne leur était venue. J'en avais aussi parlé seul à seul à mon frère Thibault, qui, depuis quelque temps, paraissait un peu ailleurs. Mais il fit bloc avec les parents, m'exposant les mêmes risques et les mêmes doutes quant à l'intérêt de mes recherches. Une dizaine de jours s'écoulèrent. Je commençais à me résigner. À l'impossible, nul n'est tenu. De plus, les vacances de Pâques arrivaient à grands pas, et quand elles seraient passées, il faudrait attendre l'été pour tenter quelque chose. Je savais bien que le temps travaillait contre moi. Quand on tient une piste, plus elle est fraîche, plus on a de chances de la suivre jusqu'au bout. J'étais donc résigné, un peu triste, mais résigné, quand un vendredi soir, coup de théâtre. Sans en avoir rien dit auparavant, Thibault proposa pendant le dîner, alors que toute la famille était réunie, de m'accompagner ailleurs pendant les prochaines vacances. Je n'en croyais pas mes oreilles. Évidemment, cela changeait tout. Les parents furent tout de suite d'accord. Accompagné de mon grand frère, je ne risquais plus rien. Nous ferions le voyage en train, nous dormirions sous tente et nous ferions notre tambouille. Formule simple, économique et rassurante. Thibault proposa un séjour d'une 8aine de jours. J'aurais préféré 15 jours, ce qui aurait augmenté mes chances de succès, mais je n'eus pas droit à la parole. « Les voyages forment la jeunesse », conclut papa enthousiaste. Il me demanda tout de même comment je comptais m'y prendre une fois sur place pour faire mes recherches. Comme la seule idée qui m'était venue jusqu'ici était de faire le tour des adresses où habitaient des meuniers, et que cette idée, je le savais, n'était pas très réaliste, je préférais rester très vague et dire que je verrais sur place quelle stratégie adopter. Mon père hocha la tête d'un air dubitatif et me tendit une carte de visite professionnelle, la sienne. « Si vous avez des soucis là-bas, n'hésitez pas à m'appeler et, en cas d'urgence, à prendre contact avec la police locale, la police nationale bien sûr, pas la municipale, et demandez-leur d'appeler ce numéro. Entre flics, on essaie de s'arranger quand on le peut. D'accord ?»«
D'accord, papa !»
Il ne nous restait qu'une semaine avant le départ, mais c'était suffisant pour prendre nos billets de train et pour réunir nos affaires. Ayant déjà campé en famille, nous disposions d'une tente, de sacs à dos et de duvets. À quelques bricoles près, nous avions tout ce qui nous était nécessaire. De plus, les vacances de printemps tombaient début mai cette année. Sur la côte, nous aurions toutes les chances d'avoir un temps acceptable. Ainsi que je l'avais calculé, mon billet de train absorba la plus grande partie de mes économies. Tant pis, nous mangerions des pâtes midi et soir, sauf si Thibault, beaucoup plus riche que moi, voulait se montrer exceptionnellement généreux. Le jour du départ, papa nous emmena à la gare en voiture en allant travailler. Nous étions sur le quai 1 heure avant le départ du train, mais comme nous devions changer à Lyon puis à Toulon, nous n'étions pas à 1 heure d'attente supplémentaire. L'attitude de Thibault me tracassait. Autant il était très enthousiaste une semaine auparavant quand il s'est proposé pour m'accompagner, autant l'instant du départ arrivé, je le sentais préoccupé, nerveux. Dans le train qui nous menait vers Lyon, il regardait sans arrêt sa montre. Moi aussi, j'avais des soucis. C'est facile d'affirmer à son père « je me débrouillerai sur place ». Mais qu'est-ce que j'allais faire sur place ? La tournée des adresses était une histoire de fou. D'abord, à part la demi-douzaine d'adresses en ville, il m'aurait fallu une voiture pour visiter les autres. En bus, cela allait me prendre un temps pas possible. Ensuite, il était tout à fait possible que la famille d'Antoine soit sur liste rouge ou que sa femme ait changé de nom après un divorce, par exemple. Antoine ne portait pas d'alliance, mais cela ne voulait rien dire. Bref, les chances d'aboutir avec cette méthode étaient quasi nulles. Et pourtant, il fallait bien que je fasse quelque chose, puisque la police ne voulait pas s'intéresser à l'affaire. Le train arriva en gare de Lyon-Pardieu. Nous attendîmes 1 heure et demie avant de voir arriver le TGV pour Toulon. Enfin, la rame arriva et nous pûmes monter et nous installer à nos places. Je ne pus que remarquer l'étrange nervosité de Thibault qui atteignait son paroxysme. Il restait debout et dévisageait tous les passagers qui passaient sur le quai et surveillait ceux qui montaient dans notre voiture. J'étais très intrigué, mais je n'osais pas faire de remarques. Je connaissais assez mon frère pour savoir qu'en pareil cas, il m'aurait remise à ma place d'une réplique cinglante. Monta alors dans la voiture une jeune fille rousse d'assez mauvais genre avec un sac à dos. Son visage s'illumina après qu'elle eut regardé dans notre direction. Immédiatement, je compris que c'était elle que mon frère attendait avec tant d'anxiété. Je me tournai vers lui et j'eus la confirmation de mon intuition. Il rayonnait en la dévorant du regard. Il paraissait complètement subjugué par l'apparition. Pourquoi n'avait-il pas osé m'en parler avant ? La rouquine s'approcha, ne me vit même pas, et avec un sourire malicieux, elle vint coller sa bouche sur celle de mon frère. Ils se confondirent comme ça plusieurs minutes, puis reprenant son souffle, Thibault fit les présentations. « Emmanuel, ma sœur. Victoire, une copine. » « Une copine ? Il y en a beaucoup des comme ça ! » Et c'est pour cette allumeuse et non pour moi qu'il avait accepté de m'accompagner à hier. Bien sûr, tout cela je le pensais, mais je n'en dis rien. On risquait de me trouver assez vite encombrante, je n'allais pas commencer à faire ma chieuse. Des voyageurs arrivaient et cherchaient à passer dans le couloir avec leurs valises. Victoire dut se serrer contre nous pour les laisser passer. Dès qu'elle put de nouveau se tenir debout dans le couloir, elle sortit son billet et me le tendit. « Ça ne te dérange pas, tu prends ma place un peu plus loin et je prends la tienne à côté de Thibault. » Cela ressemblait plus à un ordre qu'à une proposition honnête. En temps normal, je crois que j'aurais vertement répliqué et que je l'aurais remise à sa place avec quelques phrases bien senties. Mais je jetais un regard sur Thibault et je vis que sans rien dire, il me suppliait d'accepter. Je me levai, ramassai mon petit sac de voyage, fis l'échange des billets et, laissant roucouler les tourtereaux, je partis rageusement m'installer à ma nouvelle place. En cours de route, je me dis que je risquais de subir d'autres changements de programme. Comment avait-il prévu de dormir ? Allais-je devoir échanger ma place dans la tente comme ma place dans le train ? À condition encore qu'elle ait apporté une tente. Ou pire, allions-nous dormir tous les trois serrés dans la même tente ? J'en avais des frissons rien que d'y penser. Je n'avais aucune envie de me coltiner cette victoire qui me déplut au premier regard et encore moins de servir de chaperon à mon frère. La solution fut beaucoup plus simple. L'unique tente était sur le sac de Thibault. Il m'annonça simplement, en descendant du train, d'un air tout juste gêné, que la tente n'ayant que 2 places, réservées pour lui et Victoire, j'allais devoir me débrouiller pour dormir où je voudrais, mais ailleurs. Ton but n'était pas de faire du camping avec moi, mais de venir jusqu'à hier. Grâce à moi, tu y es. J'espère que tu es satisfaite. Je te connais, tu es super débrouillarde. Tu t'en sortiras très bien. Je ne me fais aucun souci. Rendez-vous ici même dans 8 jours pour le retour. » Alors, me laissant planter là, les 2 amoureux prirent leur sac et gagnèrent l'arrêt de bus le plus proche. De découragement, je m'assis sur le bord du trottoir avec une énorme envie de pleurer. Mais je me forçais à relever fièrement la tête. D'où ils étaient, ils pouvaient encore me voir et je ne voulais surtout pas leur montrer ma détresse. Je devais être forte, trouver des solutions pour survivre et avancer mon enquête. Je les vis monter dans le bus et je restai bien encore un quart d'heure assise là, à ne savoir où aller, incapable de prendre une décision. Évidemment, il était hors de question d'appeler les parents. J'aurais eu immédiatement l'ordre de retour, sans aucune considération pour l'avancement de mes recherches. Finalement, je me levai, je m'orientai et je pris la descente vers le port et vers les plages. Ursula m'avait raconté que son frère, avec un groupe de copains, avait vécu des vacances complètes en dormant sur la plage et en se nourrissant de sandwichs. Si le gîte ne me coûtait rien, en achetant du pain et des boîtes de pâté premier prix en grande surface, je devais pouvoir survivre 10 jours. En ruminant mes malheurs, je marchais ainsi quelques centaines de pas, quand une voiture blanche, toute découverte, une Méhari, je crois, vint s'arrêter à ma hauteur. Le jeune conducteur m'apostropha. « Tu vas vers la mer ?» Je fis signe que oui. « Eh bien, monte !» Le risque n'était pas bien grand. Dans une telle voiture, je ne voyais pas bien comment il aurait pu m'agresser. Il n'y avait aucune intimité possible, je pouvais sauter à terre à tout moment ou même interpeller des passants. J'acceptai. Je posai mon sac sur le fourbi à l'arrière et m'assis à l'avant. Mon chauffeur était tout jeune, peut-être de l'âge de mon frère. Tout bronzé, il avait le sourire et l'allure d'un vrai playboy. Lunettes de soleil, t-shirt et shorts de marque, chaussures bateau aux pieds, chaîne en or autour du cou, grosse montre métallique au poignet, toute la panoplie y était. Je compris qu'il chassait la minette et que j'étais sa nouvelle proie. Il allait falloir jouer serré. En attendant, il me rapprochait de la mer, les panneaux en témoignaient et c'était toujours ça de gagner. Il se présenta. « Je suis Jackie. Je passe mes vacances ici, dans une marina au bord de l'eau. C'est à mes grands-parents, mais ils sont partis en croisière dans les îles grecques. » Je ne répondis rien. « Je te dis ça, je peux te dépanner. J'ai l'impression que tu ne sais plus trop où aller. » Je ne répondis toujours rien. « Pour tout te dire, je t'ai entendu te disputer avec ce garçon à la gare. Ce n'est pas très sympa de te larguer comme ça. » Encore une fois, je passai mon tour et je le laissai découvrir son jeu. « Tu n'es pas trop bavarde. Dis-moi au moins ton prénom. »« Emmanuel. » « C'est joli, Emmanuel. Tiens, nous arrivons. Je prends cette petite rue, c'est tout au bout. » Je ne savais trop quoi faire. Évidemment, il me draguait, mais si j'avais bien compris, il m'offrait le gîte. Que réclamerait-il en échange? Si c'était de la compagnie, un peu de cuisine, des balades romantiques, j'aurais peut-être pu accepter. Mais était-il homme à se contenter de quelques amuse-gueules? J'avais bien peur que non. Pourtant, il paraissait doux, souriant, attentionné. Je résolus d'attendre un peu et d'en savoir un peu plus avant de m'enfuir en courant. Par prudence, je laissai mon sac dans la voiture, mais j'entrai à sa suite dans la maison. Il me fit visiter. C'était tout petit, mais très bien aménagé. Une grande pièce avec une baie vitrée, une terrasse avec vue sur la mer, un coin séjour et un coin cuisine composaient cette habitation de vacances lumineuse et agréable. Une petite salle de bain avec WC et une chambre meublée d'un grand lit complétaient l'appartement. « Est-ce que tu ne seras pas bien ici, plutôt que d'aller dormir sous les ponts ?» Il me dit cela en me montrant la chambre. Il lui paraissait certainement évident que nous allions dormir ensemble dans ce lit, et ça, il n'en était pas question. Mais c'est vrai que c'était sympa cette petite maison, rassurant. Du même coup, j'avais un guide, un chauffeur et une voiture, idéal pour mon enquête. Tous mes soucis matériels disparaissaient d'un coup, c'était très tentant. De plus, le choix était limité, c'était ça ou rien, c'est-à-dire repartir au hasard de la route sans savoir ni quoi manger ni où dormir. Il me proposa de boire quelque chose. Avant que j'aie pu répondre, il avait sorti 2 verres et ouvert le bar qui était bien garni. Il me montra les bouteilles d'alcool et, d'un regard interrogatif, me demanda mon choix. Je me dis qu'il était temps d'éclaircir la situation et je résolus de mettre les pieds dans le plat. Heureusement, si j'étais plutôt discrète, je n'étais ni peureuse ni timide. « Dis-moi, Jackie, tu m'offres le gîte, le couvert? C'est très sympa de ta part, mais qu'est-ce que tu attends exactement de moi en retour ?» Là, le sourire du playboy se figea un peu. Il n'avait pas l'habitude de questions aussi directes. Pourtant, il se reprit assez vite. « Eh bien, ça me paraît tout simple. Je te propose de partager nos vies et cette maison pendant le temps des vacances, c'est tout. »« Et partager nos vies, ça veut dire quoi exactement ?»« Qu'est-ce que tu en poses des questions, toi ? Ça veut dire qu'on se balade ensemble, on fait les courses ensemble, on mange ensemble, on va au cinéma ensemble. On peut aller faire un tour en bateau ensemble, j'ai un copain qui a un bateau à moteur, un truc super. » Si je lui demande gentiment, je suis sûre qu'il acceptera de nous le prêter, rien qu'à nous deux. Ce serait génial. Tu nous imagines abordés sur une petite plage déserte ?» Pour toute réponse, je souris. Il était en train de noyer le poisson et il le faisait habilement, mais je n'avais toujours pas ma réponse. Je repris l'offensive. « Partager nos vies, ça veut dire coucher ensemble ?»«
Oui, évidemment, ça fait partie de la vie, et de toute façon, il n'y a qu'un lit ici. »
« Et c'était si difficile à dire ?»«
Non, mais tu poses tellement de questions, je ne sais plus trop ce qu'il faut répondre. »
« Alors, qu'est-ce que tu bois ?»«
Rien. Tu partageras ta vie sans moi. J'étais prête à partager certaines choses, mais le lit, jamais. Contre un gîte, j'aurais même accepté de faire la boniche, mais ici, il n'y a qu'un lit. »
Je fis demi-tour et, le laissant planter là, je pris la porte. Je récupérai mon sac à dos dans la voiture au passage et je pris la ruelle par où nous étions venus. Je marchais vite, je me retournai une ou deux fois, mais non, il ne me suivait pas. J'étais bien avancée. Je me retrouvais au point de départ, un peu plus près de la mer, c'est tout. L'après-midi touchait à sa fin. Il me fallait faire quelque chose. Je rejoignis le port, m'achetai un morceau de pain et je marchai le long de la côte, espérant trouver l'inspiration sur mon chemin. Ce que j'aurais voulu rencontrer, c'est un groupe de jeunes avec des filles se préparant à dormir sur la plage. Je me serais jointe à eux et je me serais sentie en sécurité. Je n'osais pas m'installer toute seule dans un coin. J'avais trop peur d'être repérée et inquiétée pendant la nuit. Ne sachant que faire, je continuais à marcher en suivant le bord de mer. Je marchais ainsi longtemps jusqu'à la tombée de la nuit. Je dus contourner une zone de chantier naval. Il y avait plusieurs établissements côte à côte, des hangars, des bateaux, des remorques, des tracteurs, des engins. Tout cela occupait une bonne longueur de la côte. Dans la demi-obscurité du crépuscule, je vis que le dernier chantier que je longeais paraissait en ruine. Il n'était pas fermé par un solide grillage, mais seulement par une palissade en bois en mauvais état. J'eus une inspiration subite. Il faisait presque nuit, personne ne me verrait franchir la palissade. Ensuite, je trouverais bien un recoin où me cacher pour passer une nuit sans problème. Si aucune bande de trafiquants n'en avait fait son quartier général, comme on le voit dans certains films, cet endroit digne d'un décor de Far West devait être bien tranquille. Une fois la palissade franchie par une brèche, je me dirigeai vers la réserve à bois qui était couverte d'un toit de tôle. Je trouvai facilement une place discrète entre deux piles de planches. J'étendis mon duvet sur la sciure qui couvrait le sol. Je me glissai dedans tout habillé et, n'entendant que le bruit des vagues sur la grève toute proche, je m'endormis presque instantanément. Je fus réveillé brutalement par une grosse voix qui m'interpellait.
« Hey, c'est quoi ça ? Ce n'est pas un camping ici ! Allez, ousse, on dégage ! Je travaille, moi !»